Vous écoutez France Culture.
Un été avec Philippe Solers. Proposé par Isabelle Huel et Dominique Rousset. Dixième rencontre, aujourd'hui, lire, c'est entendre.
Si on devait choisir une trilogie idéale, nous, au bout de quelques heures d'entretien, avec Isabelle Huel, on aurait envie de dire Rimbaud, Céline, Nietzsche. Ça n'a pas de sens d'en citer trois seulement ?
Oui, on peut ajouter Voltaire quand même, et faire le lien entre Voltaire et Nietzsche et Céline, pour ce qui est vraiment de faire bouger le français, la langue elle-même. Je ne parle pas d'idéologie, je parle simplement du coup d'énergie que ça suppose si on va dans le fond de cette langue-là, le français. Nietzsche, pourquoi ? Parce qu'il a vu en Voltaire son prédécesseur pour la liberté de penser. Donc ce seraient plutôt des auteurs qui ont insisté beaucoup sur la liberté qu'ils avaient su se donner, au contraire de la société qui a tout fait pour les empêcher.
Rimbaud de même ?
Rimbaud ne s'est jamais voulu littérateur. Alors que Voltaire, oui, c'est un homme de combat et qui a su le mener. Nietzsche aussi, c'est un homme de combat et qui sait très bien ce qu'il veut faire pour faire éclater, dit-il, l'histoire en deux. Céline, c'est un écrivain de combat, parfois malheureux. Enfin, c'est évident que son antisémitisme est une erreur profonde. Mais il n'empêche qu'il en a tiré, malgré les ennuis qui nous sont arrivés, des chefs-d'œuvre considérables après la guerre, parce qu'on parle toujours du premier Céline et on ne parle jamais du Céline admirable des derniers livres, c'est-à-dire D'un château l'autre, Nord et Rigaudon. Le début de D'un château l'autre, on est immédiatement dans la grande métaphysique, sous ça, dans un style très, très, très populaire. Mais il n'empêche que quand vous voyez la barque de Caron qui s'appelle La Publique, où tous les morts essayent de s'accrocher pour monter à bord, etc., les spectres, tout ça, moi j'ai été voir la maison de Céline près de Copenhague, au Danemark, on a évidemment le fantôme de Hamlet, qui est là, shakespearien. Bon, il y aurait à dire chaque fois quelque chose sur tous les écrivains, en insistant sur le fait que quand c'est important, ça ne relève plus de la littérature. C'est comme l'art, quand c'est important, ça ne relève plus de l'histoire de l'art. Si c'est l'histoire de la littérature, elle est falsifiée parce que la mise en perspective est fausse, et l'histoire de l'art, c'est pareil. De là que le mot contemporain ne veut strictement rien dire, puisque ça va se classer selon quelque chose qui est absolument imprévu, qui ne tient pas du tout des jugements financiers, de succès, de l'apparence médiatique, etc. C'est le temps qui fait le tri, et à ce moment-là, eh bien, Voltaire, à un moment donné, est beaucoup plus contemporain que tous les écrivains qui sont en cours d'existence. Voilà.
Rimbaud, vous êtes intéressé à Isabelle R, la sœur de Rimbaud.
C'est-à-dire que j'ai eu envie de la réhabiliter en passant, parce qu'elle est l'objet d'un discrédit total. Comme si Rimbaud n'avait pas eu le droit d'avoir eu des sœurs. ce qui est fort étrange. De toute façon, le tabou, la gêne sur les personnages féminins dans l'histoire, dans cette histoire-là, est considérable. Songez que, par exemple, à part un extrême très très magnifique d'un livre de Michaël Ferrier que je publie là à la rentrée 2010 qui s'appelle « Sympathie pour le fantôme », songez que personne, ou pratiquement personne, ne sait qui est Jeanne Duval, c'est-à-dire l'inspiratrice des plus beaux poèmes sensuels de Baudelaire. Bon, alors dans le cas des sœurs Rimbaud, d'abord il y a sa sœur Vitalie, qui est très importante, avec qui il était à Londres. Nous avons le journal de Vitalie Rimbaud avec son frère Arthur à Londres. Et c'est très très émouvant parce qu'il s'en va l'après-midi pour travailler comme ça au British Museum. Qu'est-ce qu'il fait, hein? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a la même carte. Il est assis à quelques mètres probablement de Karl Marx qui se trouve là aussi. Voilà une rencontre. Le journal de Vitalie Rimbaud n'avait jamais été, alors qu'il est là sous vos yeux, n'avait jamais été interrogé. De même, Isabelle Rimbaud, la sœur qui a s'est obstinée à faire valoir l'œuvre poétique de son frère, a écrit des souvenirs qui sont tout à fait bouleversants. Lorsqu'il est malade, lorsqu'il a été amputé, lorsqu'il souffre atrocement, on lui reproche d'avoir été catholique et plutôt dévote. Mais enfin, c'est la moindre des choses. C'est pareil. Elle ne pouvait parler son émotion qu'à travers ce filtre-là. Et les lettres qu'elle écrit à sa mère lorsque Rimbaud est vraiment agonisant à l'hôpital de Marseille sont des lettres extraordinaires parce qu'elle est la seule à témoigner que, parce qu'on le bourre un peu d'opium dans ces derniers moments, qu'à ce moment-là, il commence à avoir des rêveries très étranges et qu'il parle. Ce qui prouve, dit-elle, et je suis absolument d'accord avec elle, que la poésie ne l'avait jamais abandonnée, qu'il n'ait pas fait une carrière littéraire, ça va de soi. De toute façon, il est parti quand la France était absolument invivable. Dans chaque cas, il faut voir un peu la biographie autrement que d'une façon tout à fait crispée. La mère de Hölderlin, c'est aussi très intéressant. Les lettres de Hölderlin à sa mère, qui sont d'une froideur totale, mais enfin, c'est elle qui versait l'argent tous les mois, etc. Enfin, il faut regarder ça d'assez près et voir comment il y a des complicités, que je dirais érotiques, entre certains personnages. La complicité érotique entre un frère et une sœur étant une des plus troublantes. Il est clair que Rimbaud a épousé à la fin de sa vie sa sœur dans une sorte de mariage mystique. Ça a choqué beaucoup les surréalistes. Et même Claudel était un peu gêné parce que, bon, bien qu'il ait été légataire universel nommé par Isabelle Rimbaud. Enfin, tous ces cas-là, je trouve qu'il est temps, plus que temps, de les réinterpréter. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes essais.
Oui,
je voudrais, si ça vous ennuie pas,
mais je vous en prie,
en lire un petit...
d'Isabelle R.
Oui, mais un petit truc là pour... Voilà, c'est 373. Voilà une lettre d'Isabelle Rimbaud. Écoutez ce ton. Il faut noter au passage que les gens de cette époque, du moins ces femmes, qui n'étaient pas extraordinairement cultivées, écrivent très très bien. La français est plus que correct. Il est même parfois inspiré. Même les lettres de la mère de Rimbaud, hein, la Moser, comme il dit. Alors voilà ce que dit Isabelle. Je crois que la poésie faisait partie de la nature même d'Arthur Rimbaud, que jusqu'à sa mort et à tous les moments de sa vie, le sens poétique ne l'a pas abandonné un instant. Et alors elle proteste très tôt contre les articles de journalistes qui traitent tout ça à la journaliste. Par exemple, sur la question sexuelle, l'homosexualité avec Verlaine, elle a cette phrase, à mon avis, sublime. Pourquoi insister sur des misères démesurément simplifiées? Magnifique. Et puis, croyez-vous qu'on le méprisait tant que cela? N'y avait-il pas, dans ces dédains apparents, une forte dose d'envie, la crainte de succès présumable pour l'avenir et le désir de les enrayer d'avance?
toujours dans un vrai roman, parce qu'on vient là de citer un extrait d'un vrai roman. Vous parlez de votre image, on va y venir, là aussi, et auparavant du milieu littéraire français. En fait, vous le décrivez, le film que se raconte le milieu littéraire français depuis plus de 30 ans peut être décrit comme un western classique sans cesse rejoué, avec de temps en temps adjonction de nouveaux acteurs. Je continue un tout petit peu, il y a un beau, un bon, un vertueux exotique, c'est le Clésio, et un méchant, moi. Un peu plus loin, vous ajoutez, Modiano, lui, a un rôle plus trouble. Il est à la banque, il avale ses mots, il a eu de grands malheurs dans son enfance, il est très aimé de cette petite ville culpabilisée de l'Ouest, aimé mais pas adoré comme le Clésio, etc. Le diable, ne l'oubliez pas, c'est moi.
Oui, et alors, en effet, je suis réengagé pour ce film qui dure déjà depuis très longtemps, à mon avis, même c'est fini, ça commence à bien faire. Mais écoute, le film implique, parce que c'est un western, on peut le transformer comme ça en western. Il y a parfois des conférenciers qui viennent, ou la télévision, ou même la radio, il y a des colloques, tout ça. Bon. Mais
Chacun son rôle, je suis
le méchant. Alors le méchant, c'est un rôle extrêmement difficile à tenir, il faut être réengagé pour ça. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé un meilleur méchant, enfin, pour l'instant. Bon, ça va, j'ai beaucoup tourné ce film. Alors ce film finit toujours de la même façon. Il y a le révérend Quignard, oui, qui est chargé de l'enterrement des victimes des duels pendant au cimetière.
Le révérend Quignard, Pascal Quignard, parce qu'il
expédie ça très vite. Enfin bon, c'est lui qui est chargé d'enterrer en latin, en bible, comme ça. Bon, d'accord. Modiano est à la banque, en effet, quand même. Le Clésio, alors là, c'est la beauté, prix Nobel, bien maintenant. Et dont les lectrices achètent des posters qu'elles mettent dans leur chambre. Elles dorment sous le... C'est normal. Moi, je suis méchant. Alors, le méchant, c'est toujours la même fin, à laquelle je suis, excusez-moi, pas mauvais du tout. C'est qu'on est dans un cimetière, je viens d'être abattu par le bon, dans un duel, au pistolet. Et ma main se crispe, on me voit mourir, toujours le même plan, et je le fais très bien. On me voit ma main s'approcher d'une poignée de dollars qui s'envolent plus ou moins dans le cimetière, d'ailleurs. Et juste, bon, je vais saisir ces dollars, je meurs. Plan suivant, le Clésio, le soleil se couche, ou se lève, ça dépend des versions. Et le Clésio sur son cheval, avec une musique, alors là, tout cassé, s'avance vers un futur qui n'appartient qu'à lui, car il... Bien entendu, il a même pas regardé les dollars. Voilà. Alors voilà, ça a été un bon film franco-américain qui peut un peu continuer en attendant la relève, parce qu'il y a de la relève maintenant au Saloon. On retenait Marguerite Duras à l'époque d'ailleurs, hein, Saloon. Il y a des nouveaux. Il y a un type assez dangereux d'ailleurs qui s'appelle Welbeck, qui vient de Octoville, qui est assez bon au poker. Enfin, voilà.
Beigbeder,
on l'appelle l'homme, je ne sais plus, au pistolet d'or, parce qu'il a des pistolets d'or. Oui, il y a du monde. Enfin, c'est une petite ville très agitée, parfois ennuyeuse, mais enfin, il y a des émissions littéraires de plus en plus tard la nuit, ou pas du tout. Puis il y a des intellectuels qui viennent, parce que là, je vous parle simplement des protagonistes dits littéraires. Mais de temps en temps, vous avez des intellectuels qui viennent faire une conférence sur le bien. Et là, on connaît les vedettes, ça a été Bernard-Henri Lévy beaucoup, ça a été André Glucksmann à une époque, maintenant, après, il y a eu des conférences très 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 virulentes de l'intellectuel Onfray contre Freud récemment, et là, ça a bouleversé la petite ville en question. Enfin, il y avait quand même un psychanalyste qui a été obligé de partir devant l'indignation populaire. Et puis, attends, je vous assure, il s'en passe. Et puis, vous avez alors l'intellectuel qui maintenant, à mon avis, est stabilisé pour l'instant, à l'instant où je parle, c'est stabilisé pour dire le bien qu'il faut et ce qui va pas bien, c'est Alain Ficalcourt, indubitablement, qui vient de sortir des urnes comme le stabilisateur général. Il est excellent.
Même sur le football, à Bataille.
Je vais vous dire ce que vous devez faire dans la vie pour être dans le bien. Voilà. Alors moi, c'est finalement le méchant. Je ne fais pas la morale. Je ne parle pas pour la société. Je suis un très 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 vilain élément. Mais on ne peut pas s'en passer dans le film.
Encore récemment, vous avez dit effectivement, je ne sais plus quelle phrase sur le Clésio qui a été reprise en disant Philippe Soler se tire à bout portant sur tout ce qui bouge. Vous avez critiqué. Ça,
dans le film, c'est ce que je fais d'ailleurs.
Voilà, d'accord.
Je voudrais signaler seulement que le spectacle, la société du spectacle, n'aime pas qu'on ne la prenne pas au sérieux. si on se moque d'elle, si on trouve que c'est pas grand-chose, là, ça réagit tout de suite très fort. Il faudrait que ça soit sérieux. Or, ça n'est pas sérieux.
Il y a quand même tout ce déluge donc, d'images qui ne cessent de défiler, il n'y a pas que des westerns. Et puis, dans tout ce spectacle, quand même, vous construisez cette image aussi. Et plutôt que de parler, est-ce que là vous trouvez que nous sommes en train d'organiser vos archives, par exemple 10 heures d'émission France Culture un été?
Ça en fait partie, bien entendu. Bien sûr que ça fait partie de l'archive. En télévision, c'est pareil. Donc, il y a la télévision officielle, si je peux dire, avec publicité, comme disent très bien les guignols. Et puis, il y a la contre-télévision que je fais depuis fort longtemps avec un certain nombre d'amis. Jean-Paul Fargier, Laurent Lalinec, Jorge Galabov, Sophie Jiang, qui est en plus une excellente photographe. Voilà. Donc, on fait de la contre-archive, c'est-à-dire qu'on se situe dans le temps comme si on tenait un journal, en toute liberté, dans n'importe quel endroit du monde, à Jérusalem, à Qumran, pour les manuscrits de la Mer Morte, à Venise, bien entendu, ou à New York ou ailleurs. C'est de l'archive, c'est-à-dire que ce qui est assez important pour résister à la falsification sociétale, qui est constamment à l'œuvre, pour résister, pour proposer un angle plus vrai par rapport à un mensonge organisé, parce que tout dépend de qui fait le montage dans l'archive. Qu'est-ce qu'on va... Je meurs. Bon, supposons que j'ai 2 minutes 50 secondes par-ci, par-là, on verra que le choix des archives ne va pas être du tout neutre. Il va être extraordinairement idéologique. Et comme j'ai mauvaise réputation et que la tranquillité m'attend bien après ma mort, parce que là, il faudra tout réviser. Donc, si c'est moi qui ai raison, les autres ont tort, vous comprenez. Donc, c'est vraiment un conflit très, très violent et que j'assume pleinement. Et cette contre-archive, si elle est un jour épluchée, montrera des choses
mais là, on est dans le
que sérieux. Je faisais pendant que tout le monde croyait que je faisais voilà. De la télévision avec publicité.
Dans la contre-archive, on vous laisse respirer, on vous laisse parler. Là, vous dites vraiment ce que vous êtes.
Absolument. Ce sont des improvisations et elles sont avec le temps nécessaire pour que la pensée suive la prestation. C'est-à-dire qu'il faut du temps.
quand vous êtes dans les médias, vous êtes considéré comme l'animateur culturel. Vous jouez ce rôle-là, provocateur, cultivé, libertin, comme on veut.
Oui, mais c'est ça, c'est la société qui met ça en scène.
Et vous aimez bien, vous rentrez dans les rôles quand on vous les demande.
Mais non, je peux faire ce genre de truc, d'abord parce que je sais le faire, et deuxièmement, parce que dans ce que je vais dire, il y a un message qui s'adresse à quelques milliers de personnes qui vont le capter peut-être, vous voyez, comme avec Radio Londres. Voilà. Alors, tout à coup, ce français parle à un certain nombre de Français, très restreint. Mais c'est le côté restreint qui est intéressant. Hein. C'est Mallarmé qui parle de l'action restreinte. Pour faire de l'action restreinte, il faut se déguiser en rock, en demi-rock, en rappeur de mots, voilà, comme ça. Je peux vous faire du rap, si vous voulez. Il s'agit de faire passer un message, comme dans les messages codés. Voici quelques messages personnels. J'aime les femmes en bleu, je répète. J'aime les femmes en bleu. Nous nous roulerons dans le gazon, je répète. Nous nous roulerons dans le gazon. Bon, j'écoutais ça entre 6 et 8 ans. Et depuis, je me suis beaucoup roulé dans le gazon avec des femmes en bleu. Je n'ai pas pu m'empêcher, mais il ne faut pas le dire.
Ce rôle, au fond, que vous, de contradicteur, de provocateur, je pense que c'est le terme de provocateur.
Non.
Non.
Nul. Excusez-moi, mais c'est un...
Non, très bien.
Il n'y a pas un article depuis 30 ans qui ne commence pas comme ça.
Ça a l'air sur vous. Oui.
Provocateur, c'est un terme policier. C'est la police qui parle. C'est le cliché social par excellence. Il est provocateur parce qu'il a dit que 2 et 2 faisaient peut-être 4 et demi. Enfin, bon, là, c'est provocant. Toute liberté individuelle est ressentie comme une provocation. C'est ce que dit Stendhal d'un mot admirable. Tout bon raisonnement offense. C'est-à-dire que vous êtes dans un système de surveillance généralisée et qui sent très bien que quelqu'un ne se plie pas à cette surveillance. Et pire, que non seulement il ne se tient pas à l'écart, où on peut toujours le surveiller désormais même par satellite, mais qu'il y a en lui la possibilité de jouer avec les caméras de surveillance et la surveillance elle-même, tout en n'en faisant qu'à sa tête. C'est ça qu'on appelle provocateur. Ce qui est une honte. Ça veut dire que le gros animal social, derrière ses obsessions de conformité et d'ordre, voit des terroristes partout. Alors, terroriste, je sais faire. Hein. Tel quel, c'était une revue qui était tout le temps traitée de terrorisme. Bon, c'est très amusant, le terrorisme. Enfin, je veux dire, sans mort réelle, bien sûr. Bon, c'est autre chose. Mais provocateur, je récuse ça tout à fait parce que c'est le cliché des gens contraints. C'est le cliché dévot par excellence. C'est presque avant de penser qu'on dit que quelqu'un comme moi est provocateur. Pas du tout. Je suis provocateur dans la mesure où je marche librement dans la rue, c'est déjà une provocation. Ou personne ne va surveiller mon emploi du temps. Quelle provocation! C'est extraordinaire. Que je ne vais pas dire à tout bout de champ comment je vis, sauf dans mes romans. Donc, je ne vais pas faire de confidences. C'est être très provocateur. Être discret, c'est être très provocateur. Etc., etc., etc. Bon. Donc, tous les défauts supposés sont en fait, si on est honnête, ce qu'à Dieu ne plaise. Ce sont des qualités. La qualité est une forme de provocation. Mais au point où on en est maintenant, vous savez ce qui sera de plus en plus... une provocation grave, ça sera ce qui est beau. C'est beau, donc c'est une provocation. C'est une provocation par rapport à la misère, à la laideur de l'art contemporain, à la laideur générale, au culte de la laideur et de l'indiscrétion et de la surveillance généralisée. Je ne suis absolument pas provocateur, je suis vocateur. Pour moi, comme pour les autres.
Alors, deuxième aspect de votre personnalité, enfin médiatique, vous l'avez bien dit, c'est le pouvoir, vous dites vous-même, exorbitant, que l'on vous accorde dans la République des Lettres. Alors évidemment, vous appelez ça de la désinformation, mais vous êtes celui qui a fait le monde des livres, vous êtes celui qui peut démolir un auteur.
Mais que n'ai-je pas fait ? Je dirige.
Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai ?
Mais le fait que je sois toujours là, alors que le vœu, ce serait que j'ai disparu, suffit à me prêter un pouvoir considérable, puisque je suis là. Alors, mais disparaissez, il est toujours là. Donc, si je suis là, c'est que j'ai un pouvoir considérable. Que ce pouvoir soit simplement dans mon esprit ou mon stylo, ne semble effleurer personne. C'est donc un pouvoir social. C'est un pouvoir de protection, de réseau, de complot. Forcément, c'est grotesque. Mais ça dit bien ce que les personnes qui relayent ce genre de propos ont dans la tête eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils voient les choses de cette façon-là.
Alors vous citez Voltaire, j'ai envie de vous demander d'enchaîner avec ce que vous voulez là, parce que ça suit assez bien ce que vous êtes en train de nous dire.
Bon, je le redis calmement, je n'ai rien à cacher, rien à me reprocher. Rien dont je dois m'excuser ou rougir, aucun regret, aucun repentir, aucune bassesse. Qu'on me juge, moi et mes écrits, comme on voudra. Actualiser les noms et les fonctions dans ce passage de Voltaire. Voltaire écrit « Les hommes sont bien sots. Et je crois qu'il vaut mieux bâtir un beau château, comme j'ai fait, y jouer la comédie, et y faire bonne chère, que d'être levrodé à Paris, comme Helvétius, par les gens tenant la cour du Parlement et par les gens tenant l'écurie de la Sorbonne. Comme je ne pouvais assurément ni rendre les hommes plus raisonnables, ni le Parlement moins pédant, ni les théologiens moins ridicules, je continuerai à être heureux loin d'eux. » J'aime bien le verbe « levrodé » dans ce paragraphe. Je suppose qu'il veut dire chasser comme un lièvre. Il a été très, très persécuté. Vous transposez, et les gens qui tiennent la cour du Parlement, aujourd'hui le Parlement, c'est pas grand-chose. Hein. Il y a un super président qui s'en passerait volontiers. Donc vous pouvez mettre la communication, les médias, le contrôle de la communication, le contrôle des médias, le verrouillage de l'information. Voilà les vrais pouvoirs. Et les gens qui tiennent l'écurie de la Sorbonne, ils se moquent, il a raison, mais l'écurie de la Sorbonne, c'est plus grand-chose, ça n'existe pas, on ne va pas être emmerdé par la Sorbonne, pas plus qu'on ne va être poursuivi pour impiété, au contraire, ça serait plutôt une qualification, comme pour athéisme, au contraire, ça serait plutôt, vous voyez, comme tout change dans l'histoire, mais après tout, ça reste, les dévots changent de costume, ils restent pareils. Donc on ne peut pas rendre les hommes plus raisonnables, et le Parlement, les médias moins pédants, moins à côté de la plaque, disons. Et les théologiens moins ridicules. Alors, disons, les philosophes, les intellectuels me paraissent souvent très, très ridicules. Voilà.
Des Propheten, ich studiere Tag und Nacht, dich so mit an ihr zu töten, nimm dich wie du willst in Acht. Drum erwarte des Propheten, ich studiere Tag und Nacht, dich so mit an ihr zu töten, nimm dich wie du willst in Acht. Nimm dich wie du willst in Acht, nimm dich in Acht. Nimm dich wie du willst in Acht, nimm dich in Acht. Nimm dich wie du willst in Acht, nimm dich wie du willst in Acht, nimm dich in Acht. Nimm dich in Acht.
Que vous nous dites là, Philippe Solers, de la littérature, du monde littéraire, des auteurs que vous aimez, de qui vous êtes vous-même, vous nous le dites, donc nous l'avons dit à plusieurs reprises dans nos entretiens, dans ce petit et joli bureau de chez Gallimard qui donne sur une fenêtre ouverte avec quelques fleurs visibles. Vous êtes chez Gallimard. Et même, vous l'avez dit, lorsque vous avez quitté Tel Quel pour diverses raisons, pour venir créer l'infini, vous êtes venu chez Gallimard et ça avait un sens, c'était presque même une logique.
Oui, voilà. Donc un siècle d'existence et ça continue. Cette maison d'édition, je l'ai dit à un Américain qui faisait un reportage sur Gallimard, n'a pas été créée dans un but de profit. Elle a fait petit à petit des profits, mais au départ, c'est la rencontre de quelques individus. Gide, n'était pas pauvre. Hein. Claudel non plus, etc. Bon, la NRF, voilà. Donc, ça fait un siècle que ça dure, et c'est très bien comme ça. Pourquoi est-ce une singularité, je dirais, mondiale ? Vous dites ça à un Américain qui ne comprend absolument pas de quoi vous voulez parler. Une maison d'édition, c'est fait pour faire du profit très, très brièvement en vendant des livres, puis en passant directement au numérique. Vous avez remarqué maintenant la nouvelle publicité, vous avez la publicité d'un livre, désormais disponible sur iPad. Ça, c'est Hachette qui fait ça. Pourquoi acheter un livre que vous avez pour pouvoir consulter, puis ça tourne les pages, voilà. Bon, c'est extraordinaire comme mutation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fond ? Et qu'est-ce que c'est qu'une maison d'édition qui traverse un siècle en accumulant un fonds considérable ? Il y a eu des crises capitalistiques, et il se trouve que c'était le moins favorisé par les forces sociales en jeu, sa famille, ou ses frères aînés, qui a été finalement le vainqueur de ces affrontements, c'est-à-dire Antoine Gallimard, le plus jeune, le cadet. Antoine Gallimard est le quatrième enfant de Simone et de Claude Gallimard. Son père, c'est Claude Gallimard, qui lui-même a dirigé cette maison après Gaston Gallimard, avec un autre qui s'appelait Robert Gallimard, et un autre encore, Michel, qui est mort dans une voiture avec Camus dans un accident tragique. Antoine Gallimard, bien. Alors c'est presque un épisode biblique, parce que c'est vraiment le cadet qu'on va chercher pour le mettre. Son père a beaucoup insisté pour que ça ait lieu comme ça. Et il se trouve qu'on s'est rencontrés il y a très longtemps, ce que personne ne savait, dans les nuits autour de 68. Voilà, on s'en connaissait déjà. Tout le monde a cru, par exemple, lorsque je suis venu chez Gallimard, que je venais, voyez, l'erreur toujours du gros animal social et des caméras de surveillance, que je venais dans la foulée de Françoise Verny, qui nous a quittés d'ailleurs. Et alors, donc, Antoine s'est imposé petit à petit. Lorsque je l'ai connu, il dirigeait Folio, par exemple. Et puis il a franchi des étapes avec des coups durs, très très sensibles. Je n'ai jamais vu quelqu'un être aussi résistant comme un boxeur qui serait par moments KO dans les cordes et qui serait quand même toujours debout. Ça me plaît beaucoup parce que c'est assez mon caractère aussi. Allez-y, tapez, on sera toujours là. Alors c'est un ami, et puis comme j'en ai pas beaucoup, c'est une chance. Je lui ai dédié un livre au moment où personne ne misait sur lui. Tout le monde me disait, mais non, Antoine Gallimard, mais il va être écrasé par son frère, Christian, qui n'est pas... Même Jérôme Blindon, je fais un tour de Luxembourg avec Jérôme Blindon, mais vous êtes fou, mais non, c'est Antoine, c'est pas vraiment, c'est le mauvais cheval, il n'y arrivera jamais, etc. Tout le monde s'est trompé, tout le monde. Quasiment. Hein, plus ça grenouillait partout, comme toujours. Donc j'ai marqué le coup pour cet ami, en lui dédiant, et le choix était très précis, en 1988, les Folies françaises. C'est-à-dire lorsque la bataille allait s'engager entre une minorité et une majorité écrasante. Comme il fallait pas s'y attendre, c'est la minorité qui a eu raison.
Bin ich ja stets lustig, heiser, hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein.
Et comme vous n'aimez pas dire que vous travaillez, vous m'avez repris plusieurs fois sur ce terme travailler, vous êtes un romancier et c'est ce que vous préférez dire.
Mais que vous êtes un romancier. Absolument, parce que la vie est un roman, qu'on sait mener ou pas. Autrement dit, il faut se débrouiller pour avoir une vie intéressante qui s'écrit sous forme de roman, forme de rencontre, de situation, etc. Romancier, absolument. Alors, l'autre jour, quelqu'un me dit, mais enfin, finalement, quelles ont été les femmes de votre vie ? Alors je pourrais répondre comme ça, comme une sorte de pipolisation. Et je réponds, les femmes de ma vie sont dans mes romans. C'est-à-dire une composition. Quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui n'aiment pas tes romans? Parce que souvent, vous connaissez le cliché, Solaire, etc. Comme essayiste, en plus, comme il a publié dans des lieux respectables. Ah, comme essayiste, c'est bien, mais alors les romans sont nuls. Alors qu'est-ce que tu réponds à ça, me dit quelqu'un, quand quelqu'un dit qu'il n'aime pas tes romans, qu'il ou elle n'aime pas tes romans? Et je réponds, eh bien, il ou elle veut dire qu'il ou elle n'aime pas la vie que je mène. Et c'est très exactement ça.
Mais dans Femmes, par exemple, qui est un livre dont on a déjà parlé assez longuement, mais là on le situe autrement, votre personnage principal est un romancier, un Américain, et justement qui se lance dans l'écriture d'un roman, et constamment à plusieurs reprises dans ce livre, alors des femmes que vous avez aimées ou qu'on devine un petit peu derrière les noms que vous leur donnez, qu'il s'agisse de Flora, qu'il s'agisse de Kate, comment, mais toi tu écris un roman, pour Jane un roman de moi ne peut être que mauvais, ou bien Flora qui vous dit quelque part, toi un roman, point d'interrogation.
Oui. Ça veut dire toujours la même chose, c'est que le narrateur de ces différents romans a une singularité spéciale, qu'il se comporte comme un agent secret tout à fait attentif à maintenir des étanchéités, des identités rapprochées multiples, comme je dis. Donc, plusieurs vies, autant que possible, pour n'en avoir pas une seule étiquetée et coincée. Ça veut dire que la censure, elle est extrême, je la vérifie chaque fois, porte sur les personnages féminins de mes romans. Donc la question est là, pourquoi est-il impossible, une critique littéraire abondante, de parler de ces personnages? Il y en a beaucoup, très différents, et négatifs ou positifs. Pourquoi y a-t-il ce tabou, alors qu'on parle de l'émancipation des femmes, etc. Ben, écoutez, personne n'en a parlé autant que moi dans des conditions tout à fait précise, expérimentale, disons. Il faut demander aux femmes pourquoi elles ne veulent pas prendre connaissance de la façon dont un homme, dans une narration précise, a pris contact, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la substance féminine. Ça ne leur va pas. Il faut, alors évidemment, nous sommes dans un conformisme très profond qui ne bouge pas de 2 à 3 millimètres en réalité. Et c'est ce conformisme, tous ces préjugés qui sont là et qui sont liés à des romans familiaux divers, un manque d'histoire, et tout simplement un manque de liberté. Donc on peut toujours parler abstraitement. Moi, ce que je veux voir, c'est ce que ça donne dans la vie, c'est-à-dire dans la vie conçue comme roman. Donc voilà, c'est très curieux, et c'est moins curieux si on fait un peu d'histoire et qu'on se souvient qu'il y a eu une grande explosion de liberté avant déjà 1968, à travers 68, etc., et que ça a fait une peur épouvantable à tout le monde, et que désormais nous sommes dans une régression complète. Il faut dire que ces personnages féminins sont en général les positives. Les obstacles aussi sont les négatifs, c'est-à-dire le ressentiment, l'esprit de vengeance, la plainte. Les femmes portent plainte. Il faut dire que ces personnages positifs ont l'air de déranger, de faire peur. Donc, une femme libre fait peur, plus que jamais. Cœur absolu. Bon. La nuit se lève, la baie entrouverte laisse passer le vent tiède et les cris des mouettes. Sigrid est sortie arroser les fleurs. On voit sa silhouette contre les rosiers là-bas, près du muret qui surplombe l'eau encore blanche. Il fait toujours très chaud. Je sors, je vais vers Sigrid, je me colle contre elle. Je passe mes mains sous sa blouse, je prends ses seins. Vous allez vous faire arroser. Non, non, continuez. Un triangle lent de canards nous survole. Liv sort à son tour, vient vers nous, se met derrière moi, me touche. Je défais le pantalon de toile de Sigrid, il tombe sur ses jambes brunes, elle arrête le jet. Liv m'introduit tout en m'embrassant dans le cou. On tombe à genoux sur le gravier, Sigrid s'excite, salaud, je vous revaudrai ça. Tu nous sens, dit Liv. Oui, trop bien. Elle remue doucement les fesses. Oui. Bon, comme vous voyez dans ce passage, c'est possible que la censure joue beaucoup là-dessus. Il est souvent question de femmes qui n'ont aucun inconvénient, pas toutes, hein, pas du tout. Il s'agit souvent de femmes qui ne voient aucun inconvénient à avoir des relations entre elles. Le thème que vous pouvez... Mais ça restreint la chose... Il faut mettre les guillemets. Le thème, si vous voulez, lesbien, pour parler rapidement, est faux, d'ailleurs, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas militant. Le thème lesbien est très présent depuis mon premier livre et dans pratiquement, pas tous, mais un grand nombre de ces livres-là. Je me rappelle un mot du vieux Lacan qui disait « On est hétérosexuel quand on aime les femmes qui aiment les femmes. » Donc on ne doit pas dire homosexualité pour les femmes. C'est autre chose. Écoutez, je ne vais pas vous citer Baudelaire, mais enfin, qui a quand même donné un... Et ça a beaucoup choqué. C'est ça qui a choqué chez Baudelaire. C'est très tabou. Autant l'homosexualité masculine est valorisée, récupérée et donne et affinie, pas partout, nous parlons des grandes villes, pas en province, des choses dans des endroits pleins de préjugés. Mais enfin, c'était un crime puni, le sodomie, on brûlait les gens, bon, d'accord. Bon, maintenant, il y a quand même quelque chose de tout à fait autre. Si vous pouvez être condamné pour des propos homophobes, comme pour des propos racistes, antisémites, etc. La question des femmes reste, à mon avis, tout à fait posée, même s'il y a des mariages, gay and lesbian studies. C'est sur le modèle de l'homosexualité masculine, je crois que c'est tout à fait différent. Les romans que j'écris comportent cette dimension qui est... très peu présente dans les romans d'hommes. Parce qu'il peut y avoir des femmes qui écrivent là-dessus, mais à ce moment-là, elles vont se limiter à ce choix.
Mais on peut tout écrire aujourd'hui, tout de même.
Pas du tout.
On publie tout.
On peut, mais on ne le fait pas. Parce que ça dépend des expériences. On ne peut pas écrire ce qu'on ne connaît pas.
Le romancier a vécu ce qu'il écrit.
Bah, écoutez, il faut aller sur le motif, comme disait Cézanne. Voilà. Alors là, nous sommes dans Femmes, avec un personnage important du livre, qui s'appelle Cyd, qui s'écrit C-Y-D, comme la danseuse très célèbre qui s'appelait Cyd Charisse, dont les jambes sont encore dans les mémoires attentives. Le rendez-vous, je l'ai en effet, mais pas celui que j'ai dit. Cyd m'ouvre la porte. Toujours nette, ponctuelle, discrète. Le jeu consiste à ne pas se parler, à faire directement l'amour. Elle est nue sous sa robe noire, on y va tout de suite, on ne parle qu'après. C'est tout différent. Une fois que la crise a eu lieu, de façon physique, le malentendu exorcisé, l'incommunicabilité mimée, déchargée. Elle a compris ça, elle accepte le rythme, je ne sais rien de sa vie, ou presque. Voilà la liberté aujourd'hui. Séparer, installer des cloisons étanches, se taire, ne jamais avouer, ne surtout pas se plaindre, changer de décor. Multiplier les scènes, suivre les diagonales, passer. C'est ce que j'aime tellement à New York, le New York de cette époque, c'était déjà le déclin. C'est ce que j'aime tellement à New York, le changement de plateau quand on veut, l'espace flottant, les distances. On lève un bras, un taxi, le jour tombe, ailleurs c'est aussi le centre. Alors qu'à Paris, deux ou trois pôles animés, et puis les périphéries. Province, province, surveillance insidieuse partout, une sorte de frein ambiant, de dissuasion psychique. Rares sont ceux ici qui ont ce qu'on peut appeler une vie. Une existence, oui, ce n'est pas pareil. S'il a beaucoup d'humour, elle est en même temps violente. Elle est pour la comédie, le cinéma qui fait jouir, l'artifice efficace, la magie, le style ironique, Geisha en 2000, les bas noirs, les jarretelles, l'absence de culottes, les préliminaires chuchotés, les obscénités entrecoupées, tout le rétro de l'affaire. Il faut que je fasse une théorie du chuchotement un jour, une thèse. Je l'enverrai à mes amis universitaires, je dirai lesquels. Zone souple, légère, langage troué, gratuité. Le pourtour démodé, idiot, mais qui trouble, qui finit par troubler. N'est-ce pas, hypocrite lecteur, lucide lectrice? On écrit des romans, la vie elle-même doit être vécue de façon romancée, pas romantique. Et comme on veut, comme je veux, enfin, comment éviter la séparation, un thème fondamental, comment ne pas séparer. La musique de la peinture, la poésie de l'architecture, etc. La demande qui m'est faite, c'est sans arrêt, c'est alors... Vous êtes ça, vous êtes ça, vous êtes ça. Si on répond, mais non, les mains dans les poches, je vais partout, je m'intéresse à tout. Mais c'est très contraire à l'idée qu'on se fait du sérieux, enfin ce que j'appelle toujours le catéchisme Flaubert. C'est-à-dire, Stendhal m'intéresse beaucoup, parce que justement, il a écrit des romans, de très grands, au moins trois, enfin. Roger de Loire, La Chartreuse de Parme ou Lucien Leven sont des romans très importants. Mais que n'a-t-il pas fait ? Des récits de voyage en province, en France, en Italie, du journalisme dans les journaux anglais, voilà, par exemple, etc. etc. Stendhal est un personnage extraordinairement romanesque, lui-même. Dans le prochain roman que je vais publier, il aura une place très, très, très importante, parce que j'ai regardé ça de très près. Et pourquoi l'Italie, avec une telle assistance à son époque, ce qui est tout à fait remarquable.
Continuer sur votre autoportrait, peut-être en finir, vous avez dit ou écrit « Je suis chinois ». Alors nous avons déjà parlé de la Chine, de votre rapport à la Chine des années... Enfin, le lien avec mai 68 et votre découverte de la Chine dans ces années-là. Vous nous avez dit aussi que vous n'y étiez pas beaucoup retourné, mais vous êtes très proche de ce grand pays, de sa littérature, de son art. Il y a chez vous, dans ce tout petit bureau, une pièce à laquelle vous tenez beaucoup. Vous nous dites toujours d'y faire attention en nous asseyant. Elle est contre le mur. Vous êtes chinois.
La Chine n'est pas seulement un grand pays énorme qui a d'ores et déjà pris la tête de l'économie mondiale, ce qui était peu vraisemblable, disons, il y a 50 ans. Comme si vous aviez dit à la fin du 19e siècle que les États-Unis d'Amérique allaient devenir la première puissance mondiale. Tout le monde vous aurait ri au nez. Donc c'est fait. C'est fait, et ça, ce qui est intéressant, c'est ce que ça provoque comme peur. Alors, non seulement comme peur, le péril jaune, etc., et des réactions dont j'ai immédiatement à l'oreille la perception, depuis très longtemps, raciste. Il y a une peur, les Chinois. Parce qu'ils sont rapides, parce qu'ils occupent vite le terrain, parce que dans les universités du monde entier, ils sont là, parce que la diaspora est énorme, parce qu'ils sont au Canada, ils sont là, ils avancent doucement, ils contrôlent la monnaie, c'est gigantesque, c'est Shanghai que je ne reconnaîtrais pas aujourd'hui si j'y retournais par rapport à ce que j'ai vu autrefois. Bref, tout ça, c'est l'occidentalisation à outrance. Cela dit, les études classiques chinoises sont de nouveau en cours. Ce n'est pas seulement un pays de traders, de gens qui veulent absolument gagner de l'argent, etc. Oui, c'est ça, mais c'est ça partout. Il y a aussi quelque chose comme une mémoire qui m'intéresse. Et donc, la Chine, c'est maintenant, c'est comme tous les pays du monde. Ce sont des paysages, ce sont des lieux, mais c'est aussi un esprit. Donc, de même qu'il y a ce qu'on a appelé la France, il paraît que la France a existé, qu'elle a même été une grande nation. C'est comme ça qu'on l'appelait au 19e siècle, pendant Napoléon, c'était la grande nation. Bon, aujourd'hui, passons vite et détournons le regard de la honte qui la caractérise. C'est-à-dire, les Français et l'argent, c'est vraiment... Ils ne sont même plus hypocrites. C'est quelque chose qui se... C'est comme s'ils échangeaient des liasses de billets devant vos yeux, sous la table, etc. Enfin, la corruption est quand même patente. Donc, le chinois, ça veut dire un état d'esprit, une écoute, une curiosité. Probablement que j'étonnerai la plupart des Chinois en leur disant que je suis chinois.
Donc 10 heures avec vous, Philippe Solers, et vous avez donné d'innombrables interviews, vous avez écrit des milliers de pages, vous avez beaucoup réfléchi sur tout ce que vous nous avez dit. Est-ce que vous avez encore pris du plaisir à préparer ces 10 heures avec nous et à les réaliser?
Bien entendu, oui, bien sûr, bien entendu, puisque c'est une question de bonne ou de mauvaise vibration. Alors... Le plaisir vient de la bonne vibration, de présence ou d'écoute. Je suis très sensible animalement aux vibrations. Voilà. Alors, ça doit être de la bonne radio ou alors je me trompe.
Parce qu'on vous donne du temps.
Exactement. De la respiration et du temps. Il faut qu'on puisse entendre, même les hésitations sont... Peu importe. Il faut qu'on puisse entendre les mots... se suivre, s'enchaîner. Vous avez remarqué comme un texte change de nature lorsqu'il est lu des yeux ou à haute voix. C'est un autre texte immédiatement. Moi-même, chaque fois que je relis un passage, pas seulement de moi, de n'importe qui, si je lis, je lis des yeux. La plupart des gens ne lisent que des yeux, disait Voltaire, ou au moment où il y avait encore des gens qui lisaient des yeux. Pas forcément en comprenant ce qu'il disait, au fond. Mais dès que vous faites l'expérience pour vous-même, enfin, ça dépend où vous posez la voix. Donc, lire, c'est entendre. Le même passage, lu des yeux. Mais même pour moi, qui suis quand même assez professionnel sur cette question, parce que quand j'écris aussi, j'écoute ce que je suis en train d'écrire. C'est pas le même texte. Ce sont les mêmes phrases, les mêmes mots, dans le même ordre assemblé. Et ça n'est pas le même texte. D'où la démonstration, je crois, assez convaincante, des 50 minutes enregistrées de Paradis. Reprendre cette chose si oubliée qu'est la tradition orale, une tradition orale que vous trouvez encore dans les civilisations dites de pensée sauvage, comme dirait Lévi-Strauss. Donc c'est une activité un peu chamanique, un peu magique. C'est-à-dire que la lecture à très rapide allure, comme un chant, me paraît être le contrepoison nécessaire, l'antidote radical contre ce qui est en train de se mettre en route, c'est-à-dire l'oubli de la lecture dans le numérique, qui propose d'une façon extraordinairement efficace, d'après moi tyrannique, l'oubli. Alors c'est là qu'on voit que si quelqu'un sait ou ne sait pas lire, c'est-à-dire fait entendre les mots qu'il lit, ça y est ou ça y est pas. Vous voyez, comme ce micro m'entend bien.
Donc en nous lisant vos textes, et en nous parlant bien sûr, vous nous avez parlé de vous.
Je crois que ça doit s'entendre.
Merci.
Musique, quoi.
Été avec Philippe Solers, une émission proposée par Dominique Rousset et réalisée par Isabelle Huel. Prise de son Olivier Leroux, mixage Marie-Thérèse Ferrand. Sur franceculture.com, vous retrouverez une bibliographie complète des textes et des œuvres de Philippe Solers et également une bibliographie des auteurs cités dans ces 10 émissions.